jour, un candidat. Municipal, Le Mans 2026. Avec Jean-Yves Breteau.
Bonjour, dimanche 15 mars, les électrices et électeurs du Mans auront à choisir leur maire pour un mandat de 6 ans parmi 7 listes présentes au premier tour des municipales. Les 97 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour conclure cette semaine, un jour, un candidat, durant laquelle la rédaction de Radio Alpa recevait tour à tour chaque tête de liste. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Le Foll, maire socialiste sortant. Tête de liste, Le Mans nous rassemble, soutenu par le Parti Socialiste, la Place Publique et le Parti Radical de gauche, centre-gauche. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Vous êtes élu maire du Mans en 2018 par le conseil municipal à la suite du décès de votre prédécesseur Jean-Claude Boulat. Réélu en 2020, vous conservez votre mandat de maire et de président de Le Mans Métropole. Vous avez une longue expérience politique puisque vous avez été député européen, puis député de la 4e circonscription de la Sarthe, puis ministre de l'Agriculture, tout en ayant été le porte-parole des gouvernements sous la présidence de François Hollande. Pourquoi avez-vous décidé d'être candidat à votre succession pour poursuivre votre mandat de maire du Mans ?
D'abord parce que l'engagement politique, c'est aussi l'engagement à agir et à faire. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai porté des projets sur l'agroécologie, j'ai créé une initiative sur le stockage de carbone des sols, et puis le Mans, la ville où je suis né, même si j'ai vécu dans un petit village du canton de Loué pendant plus de 30 ans, c'est une ville qui a des atouts, et c'est une ville auquel moi je veux aussi donner ce que je peux imaginer pour ce territoire, imaginer pour la ville, et c'est ce qui fait qu'après ces 6 années, à la tête et de la ville et de la métropole, beaucoup de choses ont été engagées. Et je considère qu'à partir de là, il était aussi de ma responsabilité de proposer aux Manzelles et aux Manceaux de pouvoir poursuivre et préparer le Mans aux grands défis de l'avenir. Réchauffement climatique, culture, vie étudiante, santé, je l'ai dit, logement et éducation.
On en parlera durant cette émission. Votre candidature s'appuie sur le bilan de l'équipe municipale sortante. Dans votre programme, vous rapportez ce qui a changé au Mans depuis 6 ans, tout en rappelant un contexte difficile avec la pandémie de la Covid, l'inflation et les instabilités politiques nationales et internationales. Parmi ces changements, quels sont, d'après vous, ceux qui ont été les plus marquants de ces 6 années?
Écoutez, là, on est encore dans une phase de travaux. Quand les travaux vont être finis, que ça soit sur les places, l'ensemble des grandes avenues qui vont être complètement revues, repensées, végétalisées, renaturées. J'ai passé hier, puisque j'ai été voir la rame du tramway allongé sur le boulevard Cugnot. Ce boulevard va complètement changer.
Il vient tout juste d'arriver.
Il vient tout juste d'arriver. C'est à la fois de la végétalisation, c'est tout ce qui va avec ce grand projet d'aménagement. Mais ce que je retiendrai aussi, c'est quand même les grands événements culturels qui sont nés, avec la volonté qui a été la mienne de créer une image pour la ville, en s'appuyant bien sûr sur ce qui fait sa notoriété mondiale, c'est-à-dire les 24 heures, mais en essayant aussi de créer d'autres grands événements. Début de l'année, c'était le Mans Sonore, avec une vraie reconnaissance, et on est engagé sur ce processus de capitale du son. C'est Plein Champ, qui est un rendez-vous maintenant de plus de 58 000 personnes, avec les artistes de l'art urbain européens et mondiaux, et reconnu comme l'un des plus grands festival aujourd'hui d'art urbain. C'est Faites Lire, bien entendu, qui a positionné la littérature et anciennement la 25e rue du livre dans le processus des prix littéraires et de rentrée littéraire. Ça, c'est un point très important. Puis c'est le Mans, son cirque, le pôle national, qui lui était déjà là, puisque c'est Jean-Claude Boulard qui l'avait lancé. C'est devenu un pôle national. Le cirque fait partie aussi de l'histoire culturelle du Mans et on développe des stratégies qui consistent à hybrider tous ces éléments, avec en particulier des musées gratuits, la médiathèque gratuite, et dans les musées, on a aussi des visites de musées avec des circassiens. Donc tout ça, je pense que ça a été un élément très structurant de ce qu'on appelle l'attractivité de la ville, sa capacité à devenir une ville où les gens ont envie de s'intéresser. Il y a bien entendu le patrimoine qui est là aussi pour ajouté une curiosité supplémentaire, mais je pense que dans ce bilan, en tout cas le plus visible, c'est ces grands événements culturels.
Dans ce bilan, notamment celui de la métropole, c'était aussi adapter la ville aux enjeux climatiques.
Oui, les enjeux climatiques, c'est de ne plus avoir aucun bus diesel d'ici 2030, d'arriver avant 2040 à faire 30% de notre production d'énergie renouvelable au niveau local, que ça soit avec le méthane, la méthanisation, que ça soit avec le photovoltaïque, bien sûr, et puis bien sûr les réseaux de chaleur, qui sont des points très importants sur lesquels je compte énormément. C'est en tout cas ce qu'on a monté, construit, et qui trouve maintenant une vraie réalité. On est à plus de 800, 900 gigawattheures, pour ceux qui connaissent tout ça, et il faudrait qu'on arrive à 1200 pour atteindre les 30%. Donc on n'est pas loin, il faut qu'on continue, et ça j'y tiens beaucoup. C'est en même temps l'isolation des bâtiments, moins consommés, isolés par l'extérieur. On a isolé plus de 7000 bâtiments, il faut qu'on continue à le faire, et le grand projet avec 50 millions d'euros d'investissement, ça sera celui de la plaine des Glonnières, tous les bâtiments des Glonnières et du Vergaland. Tout ça, ça va être fait, et ça c'est un point aussi auquel je suis très attaché, parce que dans ces bâtiments isolés, c'est des gains de pouvoir d'achat directs qui sont offerts aux locataires. La végétalisation, on en parle beaucoup. Eh bien, je regardais, je vous le disais, le boulevard Cugnot, où partout dans les places, on a revégétalisé, planté des arbres, renaturé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui enlever du goudron pour mettre de l'herbe et des végétaux. Tout ça, ça donne l'image de la ville de demain, et j'ai toujours souhaité avoir un grand projet durable, économiquement, culturellement, solidairement et en même temps écologiquement extrêmement efficace et performant.
Monsieur le maire, rénover les bâtiments face aux enjeux climatiques, c'était aussi un petit peu redistribuer du pouvoir d'achat au Mansalieu Manceau.
Alors un petit peu beaucoup pour celles qui sont concernées, et celles et ceux qui sont concernés. Il faut savoir que les estimations que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'un logement social isolé par l'extérieur, c'est un loyer de gratuit. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 12 loyers, il n'y en a plus que 11. Et s'il y a un raccordement au réseau de chaleur en plus, on est pratiquement sur 1000 à 1200 euros de gains annuels de charges. Et ça, c'est un point très important en termes de pouvoir d'achat.
Monsieur le maire, des commerçants, des Mancelles et des Manceaux ont été agacés par les travaux de toutes parts dans la ville avec des difficultés de circulation. Les travaux liés aux chronolignes seront d'ailleurs normalement terminés en 2026. Est-ce que vous les comprenez et qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce sujet ?
D'abord, je les comprends, bien entendu. Chacun a été concerné par les travaux. Et chacun qui se déplace dans la ville a connu des difficultés, j'en ai parfaitement conscience. Alors après, il y a deux choses à rappeler. C'est que le début de mandat a été marqué par la Covid. Et on a perdu un an, puisque d'abord, il y a eu un premier tour au mois de février, et puis un deuxième au mois de juin, mise en place des équipes et tout ça, ça nous a fait perdre un an à peu près. Donc sur une partie des travaux des chronolignes, ça devrait être fini. Ensuite, l'objectif de l'allongement des rames de tramway, c'était des quais. Ça s'est fait durant l'été... pendant 24-25, ça a été assez rapide, ça a été parfaitement coordonné, donc ça, c'est un point qui me satisfait beaucoup. Et puis après, il y a le réseau de chaleur urbain qui, lui, est venu s'ajouter, c'est le fameux réseau Nord. Et comme on a des aides de l'ADEME qui nous obligent à tenir un calendrier... L'ADEME, c'est l'Agence de développement pour la maîtrise de l'énergie. Et cette agence ayant subventionné de manière extrêmement significative le réseau de chaleur... Elle a des calendriers pour verser ses subventions, donc on était obligé de commencer très vite les travaux. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de travaux. Mais l'objectif, c'est que demain, une fois que ces travaux seront finis, fin 2026, c'est 40 ans d'une ville changée, avec des renouvellements complets, en particulier des réseaux d'eau et d'assainissement.
Pour présenter votre liste de 55 colistiers et colistières d'une moyenne d'âge de 53 ans, elle est composée d'élus de votre actuelle majorité, mais aussi de 24 nouveaux colistiers. Quelles sont les particularités de votre liste ?
Elle allie à la fois une vraie adhésion au projet, parce que ceux qui étaient déjà là sont porteurs avec moi du projet qu'on a mis en œuvre pendant 6 ans, et ceux qui sont venus pour participer justement à la mise en œuvre de ce projet. Donc on a une cohérence C'est pas une liste avec des accords politiciens, même si j'ai souhaité l'ouvrir à Place Publique et au Parti Radical de Gauche, mais c'est d'abord une liste qui partage l'ambition qu'on a pour la ville. Et l'ensemble de ceux qui sont venus sur la base de ce projet. Et donc, moi, ce qui m'importe, et c'est ce qui a été d'ailleurs la force du mandat précédent, c'est qu'on a eu 6 années avec une majorité qui a été cohérente, même si deux de ces, la majorité, issus de la majorité, ont quitté la majorité à la fin du mandat. Mais enfin, ils sont restés pendant 6 ans. Cohérence de la majorité, et donc cohérence du programme et du projet. Et c'est ça qui fait la force. Une ambition, et en même temps du sérieux, parce que tous ceux qui sont sur cette liste ont des compétences qu'ils veulent mettre à la disposition des Mancelles et des Manceaux, et à la disposition de ce beau projet.
Parmi les attentes prioritaires des Mancelles et des Manceaux, c'est comment trouver un médecin, un dentiste, un spécialiste pour être soigné, même si c'est de la compétence de l'État que les collectivités essaient de pallier, villes et départements. Que propose votre programme ?
Alors d'abord, pour résoudre ce problème, vous l'avez dit, il y a d'abord un problème à l'échelle nationale. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de régulation de l'installation des médecins. Les médecins sont libres de s'installer où ils veulent.
Il faudrait les obliger à s'installer là où ils ne veulent pas.
Il y a eu une PPL, une proposition de loi qui a été proposée par Guillaume Garot, hein, qui n'a pas été votée d'ailleurs par la députée Marietta Caramanli, mais qui vise à essayer d'avoir un minimum de régulation. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc de toute façon, la seule solution, c'est comment on peut faire venir des médecins. Pour faire venir des médecins, il faut s'appuyer sur l'hôpital public. Ça, c'est la première chose, parce que c'est là que vous avez des internes. Il faut que les conditions d'internat soient les meilleures. Accueil, logement, vous avez vu la grande tour blanche qu'il y a devant l'hôpital, il y a d'autres projets sur un campus des internes. C'est aussi avoir un hôpital qui a des chefs de clinique et des professeurs associés, c'est-à-dire qu'il n'est pas CHU, c'est-à-dire c'est pas un pôle universitaire, mais il est universitalisé, c'est-à-dire qu'on a une formation adéquate et de niveau par rapport à un hôpital universitaire. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui nous engagera dans les années qui viennent à investir plus de 8 millions d'euros avec l'hôpital pour donner à l'hôpital tous les atouts nécessaires pour avoir des internes. On a plus de 200 internes. Puis ensuite, c'est comment on accueille les internes et comment les médecins s'installent. Il n'y aura plus, comme ça a été le cas, des médecins dans des cabinets médicaux tout seuls qui sont avec la secrétaire. On est obligé de penser maintenant, pour l'installation des jeunes médecins, à des systèmes plus collectifs avec des soins coordonnés entre des pharmaciens, entre des infirmières, avec des sages-femmes, des psychologues et bien entendu des médecins généralistes. C'est l'objectif des maisons pluridisciplinaires de santé. On en a fait 3, hein, dont une est en train d'être terminée à Coulaines, Armand-Saffray et le Villaret. Ça fait 3, c'est ce qu'on avait prévu. Maintenant, il nous faut un projet de pôle de santé sur les quartiers sud, parce que ça devient urgent.
Il y a une préoccupation majeure sur la santé qui concerne des jeunes, mais aussi des adultes. Ce sont les moyens alloués à la santé mentale, notamment les moyens humains. En Sarthe, 150 décès par suicide sont constatés en moyenne chaque année. Comment répondre au mal-être, au mal-vivre, pour des prises en charge avec des soins adaptés pour s'en sortir ?
D'abord là, le constat est aussi terrible, mais il n'est pas lié à ce que peut décider une municipalité. On a un nombre de psychiatres sur la Sarthe qui est de 50% inférieur à la moyenne des psychiatres à l'échelle nationale.
Qu'est-ce qui explique cela, par exemple ?
Qu'est-ce qui explique cela ? Plein de choses. D'abord, les choix sur les études de médecine, sur la psychiatrie. De moins en moins de jeunes s'inscrivent dans cette spécialité. Puis deuxièmement, comme on n'a pas eu, à partir de 1974, la chance d'avoir une faculté de médecine, une partie de ces psychiatres reste sur Angers. Donc, on a un problème majeur. Comment on va essayer de pallier à cette problématique ? En particulier suite à la Covid, vous l'avez rappelé, ça touche la question de la psychiatrie et de la santé mentale, les jeunes. Là, on va avoir 2 projets avec l'établissement psychiatrique d'Allonne sur au Mans, d'avoir des centres de soins pour adolescents hein, qui vont s'installer au centre de la ville. Ici, au niveau de la place des Halles. Et puis, on aura aussi un centre d'accompagnement pour adultes qui va s'installer sur la gare sud pour être le plus près possible et apporter le plus vite possible des accompagnements et un encadrement pour éviter que d'un problème psychiatrique au début qui peut être soigné, on finisse par tomber dans des solutions dramatiques comme celles que vous avez évoquées.
Rapidement, monsieur le maire, la maison des ados a perdu les psychiatres qui travaillaient à l'EPSM. Finalement, on peut avoir une volonté et manquer quand même de personnes qualifiées.
La maison des adolescents était une institution qui a beaucoup travaillé sur la psychiatrie des adolescents et qui a été d'une grande utilité. Aujourd'hui, je l'ai dit, la problématique de la psychiatrie, c'est le nombre de psychiatres. Il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui sur le centre hospitalier d'Allonne. Et il faut à tout prix qu'on s'organise et qu'on fasse venir des psychiatres. Là, les négociations qui sont en cours avec Angers, comment on peut se mutualiser, que ça soit d'ailleurs, et il faudra qu'on regarde avec Tours comme avec Nantes, hein, mais il faut qu'on développe une stratégie qui nous permette d'avoir un peu plus de présence psychiatrique et en même temps de s'organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec aussi ce qu'on appelle des infirmières psychiatriques et en pratique médicale avancée, qui permettent de pallier les difficultés à avoir des psychiatres, mais qui sont extrêmement efficaces en proximité et auprès en particulier des adolescents. Donc la maison des adolescents fait partie de l'ensemble de ce grand projet que j'évoquais tout à l'heure et qui est pour moi un projet essentiel parce que nos adolescents, notre jeunesse, comme les adultes, mais en particulier notre jeunesse, il faut qu'on s'en occupe tout de suite.
Monsieur le maire, c'était déjà un thème de campagne en 2020, la tranquillité publique et la délinquance. Certains parlent d'insécurité, des mesures ont été prises sur votre dernier mandat, mais le sujet revient toujours sur la table. Toutes les villes y sont confrontées, et certaines d'ailleurs plus que d'autres. Comment rassurer les Mancelles et les Manceaux qui se plaignent des incivilités, des dégradations, des agressions, d'un manque de sécurité pour sortir la nuit, notamment en centre-ville?
Alors cette idée de sortir la nuit dans le centre-ville, j'ai souvent entendu hein, qu'après 8h30 on peut pas traverser la place de la République. Je trouve que là, on n'a pas eu un acte de violence sur la place de la République depuis 3 ans.
Donc c'est un sentiment d'insécurité.
Mais c'est un sentiment et il y a aussi une réalité. Hein. Je ne vais pas nier le fait qu'il y a une réalité. Moi, je n'ai pas été de ceux qui ont considéré que la sécurité c'était un problème annexe ou c'était un problème de sentiment. Non. Il y a un problème, mais on a des résultats, puisque depuis 2 ans, de suite, on a une baisse des atteintes aux biens et des atteintes physiques aux personnes. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de travailler sur ce sujet? 3 grands principes, parce qu'il y a ceux qui donnent simplement des mesures avec des moyens. Non, il faut des principes, il faut une politique sur la question de la sécurité et de la tranquillité. Premier principe, la fermeté. Il va de soi, et quand je suis arrivé, il y avait 14 policiers municipaux, il y en a 40 aujourd'hui, ils sont armés d'un pistolet à impulsion électrique et de tout ce qui va avec, et en particulier des caméras piétons.
Et vous ne voulez pas les équiper davantage?
Et hein. On va aller jusqu'à 50 policiers municipaux. Ensuite, on a la vidéoprotection, vidéosurveillance, avec un centre de supervision urbaine qui est extrêmement efficace et qui nous permet de suivre et d'agir le plus rapidement dès qu'on voit qu'il y a un problème à quelques endroits que ce soit de la ville. Ensuite, on a la coopération. Et là, on a créé des liens extrêmement forts. Et je salue en particulier le travail qui est fait entre la police municipale et la police nationale. Et la police nationale, avec en particulier la BAC pour la nuit, sur laquelle on a une excellente efficacité de cette BAC et de police secours. Et puis le troisième élément, c'est la sûreté ferroviaire. Hein. Aujourd'hui, on gère avec la sûreté ferroviaire les deux parvis de la gare. Et enfin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout ça, ça ne va aussi que si on a une grande politique de prévention. Si on laisse des adolescents, des jeunes, sans encadrement, sans aucune ligne, sans accompagnement, c'est sûr que pour une partie d'entre eux, ils finissent dans la délinquance et dans le trafic. Et ça, c'est pas possible. Donc la prévention est un sujet majeur. Fermeté, coopération et prévention. Voilà les 3 principes sur lesquels on s'appuie. Et on a aujourd'hui des résultats. Ces résultats sont toujours insuffisants, puisqu'il y aura toujours des problèmes, et il faut toujours faire mieux. C'est pour ça que je vous l'ai dit, on va passer de 40 à 50 policiers municipaux. Là encore, l'État avait promis de 10 policiers dans le transport urbain. Monsieur Retailleau, qui est venu soutenir Monsieur Sasso, a clairement décidé de ne pas envoyer de policiers supplémentaires. Et ça, c'est un vrai sujet. On va donc en compenser une partie, mais on restera sur ces grands principes. C'est une politique globale. La sécurité, c'est pas juste plus de policiers et tous armés de manière létale au niveau de la municipalité. Non. Ça, ce sont des mesures C'est pas une politique. Une politique sur la sécurité, c'est une politique qui reprend les trois piliers que j'ai évoqués.
Votre programme propose différentes ambitions pour la jeunesse. Votre mandat aura d'ailleurs répondu à leurs attentes pour qu'ils puissent avoir des sorties autour des musiques électroniques et des musiques actuelles. Ça, c'était un point culturel marquant
oui,
de votre mandat.
Vous faites bien de le rappeler, cher Jean-Louis Bretot, puisque je l'ai oublié tout à l'heure. La SMAC, le fait que le Scarron devienne aujourd'hui une scène où on va pouvoir avoir des soirées avec des musiques émergentes. Le fait qu'on a lancé plusieurs grandes soirée aussi de musique qu'on appelle techno dans le cadre de la capitale du son. Tout ça a participé aussi à offrir à toute une jeunesse des événements culturels qui l'attirent et qui lui donnent aussi des débouchés festifs.
Puisqu'on parle de la jeunesse dans votre programme, vous rappelez que l'éducation est un enjeu d'avenir. Quelles dispositions envisagez-vous pour accompagner cet enjeu, notamment avec les écoles ?
Alors, sur les écoles, on a plusieurs projets. La question des écoles, c'est la question des infrastructures. Donc là, il faut investir dans l'isolation de ces bâtiments, dans la rénovation des cours d'école. Il faut aussi prendre en compte maintenant le fait qu'on a des canicules qui viennent de plus en plus tôt, et en juin en particulier, donc il faut qu'on ait des systèmes de protection sur les façades qui sont exposées au sud. Et donc ça, on a lancé tout un programme, et il va falloir le poursuivre et l'amplifier. Et puis il y a un autre sujet, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le périscolaire. Le temps scolaire, c'est un temps très court. En fait, quand on prend la durée totale d'une année, c'est 10% du temps qui est dans une classe pour un jeune. Donc 90% se passe ailleurs. Donc il faut qu'on soit capable de continuer à encadrer ces jeunes, en particulier dans les quartiers politiques de la ville. À la fois en les prenant le matin, c'est tous les petits déjeuners qu'on a mis en place et qui fonctionnent très bien, en accompagnant ces jeunes le soir avec les études, et ça c'est un point très important, et en faisant en sorte aussi qu'on ait, au travers des centres de loisirs, la possibilité de continuer à encadrer ces jeunes avec une spécificité, et là vous verrez que dans les programmes peu de personnes en parlent, mais le sport est un enjeu spécifique, à la fois parce que c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de dépassement, c'est un enjeu de compétition, mais c'est aussi un enjeu, j'allais dire, d'amusement, mais c'est un enjeu aussi en termes de socialisation et de cadre et de règles à respecter. Donc pour moi, l'enjeu sportif va avec cet enjeu de l'accompagnement dans le périscolaire, et c'est pourquoi on a investi beaucoup, en particulier aussi dans ces fameux terrains synthétiques, pour permettre à des jeunes de pouvoir s'entraîner tout le temps.
Voilà, et je crois que vous voulez encourager la pratique de la natation.
Et on va encourager la pratique de la natation avec une faiblesse, vous le savez aujourd'hui, qui a été constatée par le gouvernement il y a déjà 2-3 ans sur les noyades et le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas nager. Donc on va rajouter aux piscines que nous avons un camion piscine qui permettra de faire les premiers apprentissages de la natation pour essayer d'oublier personne et faire en sorte que tout le monde puisse savoir nager.
Toujours sur les questions de jeunesse, il y a des enjeux avec l'Université du Mans qui doit par ailleurs faire face à de grosses difficultés budgétaires.
Oui, toutes les universités pratiquement sont confrontées à des difficultés budgétaires. Mais là, l'université comme l'ensemble des étudiants sur le Mans, ça doit être une ambition. Elle a été souvent un peu trop oubliée. Et ça coûte en termes de démographie, en termes de jeunesse, en termes de compétences, parce que des jeunes qui font des études supérieures sont des jeunes qui sont compétents, qui sont formés. Et donc moi j'en ai fait une priorité dès que je suis arrivé, avec un nouveau campus universitaire au niveau de la gare sud, des contacts et des nouvelles écoles d'ingénieurs qui sont aussi prévues, et puis on s'appuie en même temps sur la CCI, sur les lycées qui sont des formations aussi en études supérieures, en particulier sur les maths sup, les maths spé, les cagnes et l'hypocagne, et puis des nouvelles écoles qui sont arrivées au Mans depuis 5 ans, et j'ai fait beaucoup avec Fabienne Lagarde et les élus dans l'éducation pour qu'on puisse attirer le plus possible d'offres de formation, parce que ça permet d'avoir plus d'étudiants. On était à 11 000, 12 000 étudiants quand je suis arrivé, on a passé la barre des 15 000, et il faut qu'on passe la barre des 20 000. Voilà l'objectif, et je pense que c'est nécessaire pour que la ville du Mans soit une ville étudiante.
On n'aura pas eu le temps de parler de la question du logement, mais toutefois, il y a aussi le projet de savoir où, quand on est étudiant, on peut se loger au Mans.
C'est ça, donc il y a beaucoup de projets de construction de résidences étudiantes. Vous en avez vu fleurir un certain nombre. Il y a 3-4 projets en cours encore. Et puis sur le logement, juste pour terminer, il faut qu'on soit capable de produire des logements. On a comme objectif de produire à peu près 1 000 logements par an, c'est-à-dire 6 000 logements, parce qu'on a une demande qui est très très forte, à la fois sur les mutations de logements, hein, différence de changement de logement, et en même temps sur ceux qui veulent entrer sur le marché du logement locatif. Et donc, il faut qu'on soit capable de répondre à cette demande qui s'élève aujourd'hui autour de 10 000 personnes.
Monsieur le maire, la campagne du premier tour se termine. On rappelle qu'un dernier meeting de votre campagne est annoncé pour le jeudi 12 mars à 18h30 à la Maison pour tous Jean Moulin. On arrive au terme de cette émission. Pourquoi voter pour votre liste dès le premier tour ?
Il faut voter dès le premier tour parce que, je vous l'ai dit, pas de choix politicien dans le contexte actuel, avec la situation internationale et la situation nationale. Il faut faire des choix clairs. C'est ce que je dis au Moncel, au Manceau. Chacun a pu regarder ce qui a été fait depuis 6 ans. Moi, j'ai jamais rien caché. J'ai dit ce que je voulais faire et j'ai essayé, et on est allé très loin, de faire ce que j'avais dit. Et on fera la même chose encore une fois. C'est de la solidité aussi. Solide politiquement, cohérent politiquement, et avec un projet d'avenir, se tourner vers l'avenir. Voilà pourquoi je pense qu'il faut que le 15 mars, les Mancelles et les Manceaux fassent un choix clair, cohérent, et c'est pourquoi je les appelle à voter pour la liste Le Mans nous rassemble.
Merci Stéphane Le Foll. On rappelle que vous êtes le maire sortant socialiste, tête de liste Le Mans nous rassemble, soutenu par le Parti Socialiste, Place République et le PRG Centre-Gauche, sont aussi candidats. Maëlle Briand, tête de liste LFI, Le Mans, une ville humaine. Victoria de Vigneral, tête de liste du Rassemblement National, que nous n'aurons pas pu recevoir cette semaine. Marietta Caramoli, tête de liste L'Union pour Le Mans. Arnaud Rabet, tête de liste Lutte Ouvrière, Le Camp des Travailleurs. Benjamin Sainty, tête de liste de la Révolution Permanente. Et Olivier Sasso, tête de liste d'Union de la Droite et du Centre Le Mans Nouveau Cap. Merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission Un jour un candidat, que vous retrouverez en podcast sur radioalpa.com, rediffusion ce jour à 17h. Dans le prolongement de cette semaine durant laquelle nous avons reçu tour à tour les candidats, Radio Alpa vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 12 mars, pour le grand débat entre toutes les listes. Ce sera en direct de midi à 14h sur Radio Alpa, avec la collaboration des rédactions de LMTV Sarthe, Le Maine Libre et Ouest France. Pour des questions de sécurité et de capacité d'accueil, on le rappelle, le débat ne sera pas ouvert au grand public. On rappelle que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h pour choisir votre maire et pour que vive la démocratie. Les dimanches 15 et 22 mars, votez.
Les municipales Le Mans 2026 à suivre sur Radio Alpa.
Sans 107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa, l'alternative.